Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur Europe 1. Jean Castex s'approche du micro. Il est dans la cour de l'hôtel de Matignon. À ses côtés, Elisabeth Borne, qui vient d'être nommée par Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre, la nouvelle Premier ministre, image symbolique du début de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. On entend les applaudissements du personnel de Matignon pour Jean Castex. Jean Castex qui va prendre la parole.
Merci beaucoup. Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici à l'hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement, dans un moment toujours solennel, et je tiens à le dire d'emblée, particulièrement émouvant pour moi. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit à la tête du gouvernement de la République à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnels, difficiles, douloureux. Et je voudrais d'abord exprimer évidemment ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction, et j'allais dire tout simplement de servir mon pays. Je voudrais dire aussi au peuple de France combien je sais que les mois écoulés, marqués par une crise sanitaire inédite, ont été difficiles. Combien cela a engendré de décès, de souffrances. Combien nous avons dû prendre, sous l'autorité du chef de l'État, des mesures difficiles. Mais je veux ici saluer la résilience de nos concitoyens, la solidarité qu'ils ont exprimée au-delà des contestations qui se sont fait jour. Mais dans l'ensemble, nous avons ensemble fait face. J'ai essayé, avec le gouvernement, avec l'ensemble des services publics, de mener le bateau dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, avec, je le redis, un seul objectif: protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer. Ces remerciements, je les dois aussi évidemment à l'équipe gouvernementale dont tu faisais, chère Elisabeth, partie. Et au-delà de cette équipe, à mon cabinet, bien sûr, au service exceptionnel qui, tu le verras, travaille ici à Matignon, mais tu les connais déjà, pour l'essentiel. Et au-delà, à l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État et du service public. Pour ceux qui en doutaient, ça n'a jamais été mon cas, la France a montré qu'elle disposait d'un État et d'agents du service public formidables. Bien sûr, comment ne pas évoquer d'abord celles et ceux qui concourent à notre service public de santé, public et privé d'ailleurs, qui depuis le premier jour ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnelles à toutes les vagues de la pandémie. Combien de fois me suis-je rendu à leur côté, dans les services de réanimation, d'urgence, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans les centres de vaccination. Je veux leur redire, en votre nom, la gratitude infinie de la nation française pour ce qui s'est passé. Nous avons, mon gouvernement a tenté, à la demande du chef de l'État, d'en tirer déjà, ça s'est appelé le Ségur, toutes les premières conséquences pour remettre à niveau ce service public dont la pandémie a rappelé une nouvelle fois le caractère absolument indispensable. Et je sais, chère Elisabeth, que tu auras à cœur de poursuivre cette action. Ma reconnaissance s'exprime également aux membres du Parlement et notamment à la majorité parlementaire qui m'a toujours été fidèle d'une grande loyauté, qui a pris ses responsabilités. Et je crois dans le plus grand respect et de l'état de droit et des prérogatives de la représentation nationale. La crise sanitaire, vous le savez, n'a pas été le seul événement auquel nous avons dû faire face. Plus près de nous, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, qui n'a pas fini de faire peser toutes ses conséquences, y compris ici, dans notre pays. Et je sais que c'est une des priorités que tu auras à cœur de traiter. Mais je veux avoir une pensée particulière en ce moment aussi pour les victimes des attentats terroristes qui ont meurtri notre pays, alors que je me trouvais ici à l'hôtel Matignon. Je pense bien sûr à Samuel Paty et l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, mais je pense aussi à Stéphanie Monfermé et l'attentat terrible dans ce commissariat. Je pense aussi aux victimes, aux trois victimes, à Notre-Dame-des-Anges, à Nice. Je pense aussi à ce policier assassiné en Avignon. Tout cela marque beaucoup la nation et renforce notre détermination, et je sais combien tu la partages, à lutter sans relâche contre le séparatisme et le terrorisme. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction, en veillant toujours à ce que je crois fondamental, à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout, au-delà des décisions qu'il nous faut prendre. L'engagement, la sincérité, le bon sens et la proximité. La société souffre. Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Ah, le peuple français est un peuple exigeant, tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique. La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne n'est parfait. N'oublie pas, quoi qu'il en soit, que, en réalité, il y a ce qu'on entend beaucoup, qui s'exprime fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu, et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faites comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue. Mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France. Cette France qui est confrontée, tu le sais, à d'immenses défis. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. la question du pouvoir d'achat, sur laquelle, je le pense, mon gouvernement a déjà beaucoup agi, va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris, loin de toute mesure de démagogie et de facilité, qui n'aurait pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables d'entre nous. J'ai confiance, chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais, je te vois agir. Tu étais au gouvernement avant que je n'en devienne le chef, mais depuis juillet 2020, j'ai pu, je veux le dire à la nation, observer tes immenses qualités de droiture, d'intégrité, de compétence, de volontarisme, ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la République a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'est l'élection présidentielle, la transition écologique, l'égalité des territoires, l'aspiration à la justice et à l'égalité, toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même et depuis longtemps. Surtout, j'ai confiance dans le peuple de France, dans les grands talents que celui-ci recèle, pour qu'ensemble, de façon solidaire, déterminée par notre travail, par nos efforts partagés, nous puissions faire face à ces grands défis. Je serai, autant que tu le souhaites, à tes côtés, ma chère Elisabeth. Comme je l'ai dit et annoncé, je ferai, en ce qui me concerne, un pas de côté, en sortant de la vie politique nationale, dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020. Je continuerai bien sûr à servir notre pays. Il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime en dehors de la politique. À toi-même, au gouvernement de la République, et à l'ensemble de nos concitoyens, à notre pays, à l'Europe aussi, je souhaite de tout cœur bonne chance. Je souhaite le meilleur, car je n'en doute pas, nous en sommes capables. Je vous remercie.
Jean Castex en direct sur Europe 1 pour son dernier discours à Matignon. Il va passer la parole à celle qui le remplace, Elisabeth Borne. On écoute le discours de la nouvelle première ministre qui applaudit Jean Castex, qui a prononcé quelques mots devant le personnel de l'hôtel Matignon. On vit cette passation de pouvoir en direct sur Europe 1 dans Punchline, avec les applaudissements encore une fois du personnel de Matignon pour Jean Castex. Elisabeth Borne va prendre la parole. On est en direct sur Europe 1, il est 19h42.
Monsieur le Premier ministre, cher Jean, merci tout d'abord pour ton engagement sans faille au service de notre pays, au service des Françaises et des Français tout au long de ces derniers mois. Merci aussi pour tes mots et puis merci pour les nombreux combats que nous avons mené ensemble, précisément, au service des Français. Alors, je suis sûre que beaucoup de Françaises et de Français ont, comme moi, un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions. Parce que tu as su conquérir le cœur des Français en sillonnant sans relâche notre pays, en allant à leur rencontre. Tu le sais, je crois, tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier ministre. Mais ça nous a permis de découvrir, au-delà de tes grandes qualités d'écoute et d'apprécier, tes qualités humaines, toute ta sincérité et toute ta capacité, je veux dire, d'empathie vis-à-vis de nos concitoyens. Alors tu l'as rappelé, quand tu as pris tes fonctions il y a bientôt 2 ans, les défis étaient immenses. D'abord, la crise sanitaire était toujours là dans notre pays et on nous annonçait une crise économique et sociale sans précédent. Grâce à ta détermination, à ton engagement, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, les résultats sont là. Nous avons pu protéger les entreprises. Le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans. Nous avons agi pour le pouvoir d'achat, même si tu l'as dit, il nous faudra continuer à agir tout au long des prochains mois. Moi, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié de travailler à tes côtés pendant ces 22 mois. Alors, nous avons évidemment des différences, mais je pense que nous avons aussi beaucoup de choses en commun. D'abord, nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue. Le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations avec lesquelles nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois. Et puis, même si nous venons de familles politiques différentes, je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général, à la cohésion de notre pays, à l'égalité des chances, et ça j'ai pu le mesurer, notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse. Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, je pense sincèrement que vous êtes une personne rare, parce que vous privilégiez toujours le collectif et que vous incarnez ce qu'est un ministre, ce qu'est un Premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui sert son pays. Donc merci très sincèrement et bravo.
Voilà donc pour les premiers mots d'Elisabeth Borne dans sa nouvelle fonction de Première ministre. Un discours assez court, assez ramassé, où elle a rendu hommage immédiatement à Edith Cresson, beaucoup plus court que Jean Castex, évidemment. Les deux s'embrassent parce qu'ils ont travaillé pendant ces 2 ans ensemble. Elle a rendu hommage, Bruno Jeudy, à Edith Cresson, première femme, évidemment, première ministre, et en disant, voilà, c'est un signal qui sera envoyé à toutes les petites filles de ce pays qu'on peut accéder à ces postes-là de pouvoir.
On voit bien que le message depuis sa nomination, y compris dans le communiqué de l'Élysée, et c'est Elisabeth Borne qui a tenu à la formulation première ministre, le message c'est une femme est nommée à Matignon, c'est la première fois depuis 31 ans, et on voit bien que c'est le message du jour. Emmanuel Macron en avait fait une promesse, il la tient, il voulait déjà nommer, vous le rappeliez tout à l'heure, une femme en 2017, il aura attendu 5 ans pour atteindre cet objectif et Elisabeth Borne, à ses yeux, coche toutes les cases qu'il avait fixées. Une femme, il voulait une femme à Matignon, un peu écolo, un peu de gauche, un peu sociale, apte à conduire des réformes difficiles, ce qu'elle a fait depuis 2017. Elle a conduit 2 des réformes compliquées qui ont été menées pendant le mandat précédent, la privatisation de la SNCF et la réforme de l'assurance chômage. Deux réformes d'ailleurs qui sont plutôt de coloration de droite pour une femme qui vient de la gauche. Alors elle a été proche du Parti Socialiste sans jamais y adhérer, mais enfin, elle fait plutôt partie de l'aile gauche de la majorité. Elle a une formule d'ailleurs qui est assez... quand on lui dit qu'elle a finalement conduit plutôt des réformes de droite sous Emmanuel Macron, il dit « je me suis dépassé moi-même ». C'est sa façon à elle de résumer son parcours, de quelqu'un qui a quand même travaillé longuement à côté de Lionel Jospin au début de sa carrière. Mm-hmm. Elle fut sa conseillère au ministère de l'Éducation dans les années 90, avant de travailler avec lui à Matignon. Et d'ailleurs, à Match, on a une passion pour les archives. Et cet après-midi, j'ai recherché. Elle était effectivement dans la cour de Matignon le 6 mai 2002, lorsque Jean-Pierre Raffarin raccompagne le jour
Lionel
de la passation
Jospin.
De pouvoir. Lionel Jospin. Et on la voit au premier rang applaudissant le départ de Lionel Jospin. Donc voilà, elle revient par la grande porte cette fois-ci, 20 ans plus tard, pour cette fois s'installer dans le bureau qui fut celui de Lionel Jospin à l'époque.
Et elle dédie sa nomination à toutes les petites filles, Gilles Mintré.
Oui, il y a beaucoup d'émotions, on l'a senti dans ces deux discours. Une grande image de concorde, de connivence. J'ai envie de dire, on a vu la Macronie au bon sens du terme. C'est presque une illustration. Hein, une élite administrative, hein, puisque c'est le cas. Jean Castex, Cour des comptes, Elisabeth Borne, corps des ponts et chaussées. Mm-hmm. De droite et de gauche, Jean Castex, ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, Elisabeth Borne, ancienne directrice de cabinet de la gauche, qui sont main dans la main au nom de l'intérêt général, c'est le mot qu'on a entendu, intérêt général, de l'État, service public, ce mot qu'on a...
Oui, des serviteurs de l'État.
Nous sommes des serviteurs de l'État, donc c'était ça aussi la promesse macronienne, c'est de dépasser ces clivages pour le meilleur, pour l'avenir du pays. Et puis un discours qui était quand même politique des deux. Alors vous l'avez dit, Elisabeth Borne, un peu en direction des femmes, message d'espoir pour toutes les petites filles. Et puis ne pas négliger celui de Jean Castex, que j'ai trouvé très
diplomatique.
D'ailleurs, un petit mot sur Jean Castex, c'est assez rare. Oui. Il prend le temps de saluer toutes les personnes qui traditionnellement se rassemblent dans la cour de Matignon, c'est-à-dire à la fois les
il
personnes de son
tous
cabinet
les personnels,
et le personnel. C'est assez rare, il est en train de saluer chaque personne. C'est la
avec une petite tape sur l'épaule, un petit mot amical.
C'est une très grande empathie.
Et dans une attitude très républicaine, Elisabeth Borne attend sur le perron. On en a beaucoup parlé.
En applaudissement.
Mais
Jean Castex a parlé de tous les silencieux de France et là c'est un mot-clé puisque c'est eux les silencieux qui ont été quand même majoritaires dans cette élection. On pense aux abstentionnistes, on pense à ceux qui n'ont pas trouvé dans l'offre politique ce qui leur répondait. Il y a un grand enjeu là lui en parle et ça va être à Elisabeth Borne de le mettre en
œuvre. Elle a beaucoup parlé d'Edith Cresson, je passe la parole ensuite Alexandre. On va juste écouter Edith Cresson, première réaction après la nomination d'Elisabeth Borne recueillie par Alexis de la Fontaine.
Il y a qu'en France que ce problème se pose, je m'excuse, mais quand en Angleterre, Mme Thatcher a été Premier ministre ou Angela Merkel en Allemagne, on n'a jamais souligné le fait que c'était des femmes. Il n'y a qu'en France, où la classe politique est particulièrement arriérée. Je pense que Mme Borne, que je connais, est une personne extrêmement compétente, qui a une grande expérience, à la fois du secteur public et du secteur privé. Elle a été préfète, mais elle a été aussi en entreprise. Et donc, je pense que c'est un très bon choix, c'est tout ce que je peux dire. Il ne s'agit pas du fait que c'est une femme. C'est pas un problème.
Voilà Edith Cresson avec Alexis de la Fontaine et à l'instant Jean Castex quitte l'hôtel Matignon sous les vivats.
Ouais, c'est assez étonnant. J'ai vu beaucoup de passations de passations dans la cour de Matignon. Non seulement il a salué toutes les personnes, il est accompagné de sa femme, ça c'est plus fréquent, de son directeur de cabinet et il repart à pied sans que la voiture l'attende au milieu, humblement comme il est arrivé.
Pour dit-il faire du bricolage dans sa maison.
Non, on y croit pas du bricolage, mais ce qui est assez incroyable, c'est sa façon de quitter. Il a tout refusé. On lui a proposé d'être ministre, on lui a proposé d'aller siéger à l'Assemblée. Il a tout refusé.
Il veut
rester au service de l'État, dans quelque chose qui sera dans le parapublic probablement avant le 14 juillet. Nous le serons, m'a-t-il dit. Et il repart comme il est arrivé. Finalement, c'est un personnage.
Par réfraction, a-t-il dit.
Oui, il a eu cette formulation qui est assez intéressante, qui reprend d'ailleurs un mot d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'il avait été élu par réfraction. Lui, il a été un peu nommé par réfraction, mais il l'assume.
Alexandre Chauveau.
Oui, ça colle bien avec le qualificatif qu'il employait pour décrire Matignon. Il disait que c'était une ruche qui fonctionnait parfaitement. D'aucuns ont vécu un enfer à Matignon. Lui, visiblement, a vraiment pris plaisir pendant ces presque deux ans. Je voudrais revenir sur un point commun qu'Elisabeth Borne a mis en avant entre elle et Jean Castex, c'est le dialogue. Le dialogue et l'autorité, et elle va en avoir besoin parce qu'en étant nommée première ministre, donc elle devient chef de la majorité, elle va devoir conduire la bataille des législatives, qui est le premier grand défi très important qu'elle va
mener, elle, en tant que candidate, confirmation.
C'est ça, dans le Calvados, et en tant que chef de la majorité. on annonce une majorité qui sera, enfin, qui sera sans doute élue, mais avec beaucoup d'insoumis qui seront élus, enfin, la fameuse nouvelle Union populaire, entre 30 et 50 sièges pour le Rassemblement national. Là-dessus, il va falloir qu'elle s'affirme. Et derrière, il y aura la planification écologique qu'elle va devoir conduire. On sait que Emmanuel Macron en avait fait une de ses priorités. Et surtout, la réforme des retraites. On peut dire que c'est peut-être un des arguments pour lesquels elle a été choisie, c'est qu'elle a été ministre du Travail, elle a assisté à des réunions sur la question, donc elle connaît le dossier. Elle a aussi négocié avec les partenaires sociaux quand elle a conduit la réforme de la SNCF. Donc là-dessus, elle va avoir effectivement besoin de dialogue et d'autorité.
Et on va s'apercevoir qu'elle a de la poigne et qu'elle s'est rétorquée aux oppositions de façon extrêmement énergique. On va le découvrir dans les prochaines semaines. Gilles Vintré, un dernier mot.
Le tweet qu'a fait Emmanuel Macron, c'est intéressant parce qu'il cite les politiques que va devoir mener Elisabeth Borne. Écologie, on le sait, elle va être responsable de la planification énergétique. Après, santé et éducation, les fameux sujets de services publics qui est au cœur de la campagne. Plein emploi, renaissance démocratique. Donc là, on va la prendre au mot, les nouvelles façons de gouverner. Europe, sécurité. Il y a aussi des mots qui manquent. On ne parle pas de retraite, on ne parle pas de défense, on ne parle pas de pouvoir d'achat. Voilà. Mais je trouvais que cette liste et cette priorité étaient intéressantes.
Et un tout petit mot de ce qu'a dit Edith Cresson. Moi, j'adore l'île. La France est un pays politique arriéré. On ne devrait même pas s'étonner qu'une femme entre à Matignon. Et pourtant, c'est exceptionnel. Ça fait 30 ans que ça n'est pas arrivé. Bruno Jeudy, un dernier mot.
Dans ses interviews régulières, Edith Cresson n'a cessé de dénoncer non pas le machisme des Français, mais le machisme de la classe politique. Elle n'a pas changé. Alors là, évidemment, on l'a beaucoup entendu parce qu'il y avait cette nomination imminente d'une femme, 31 ans après elle. Et au fond, à la fois, elle a dépassé ce qu'elle a vécu, qui a été très dur. C'est incroyable. Quand on revoit tout ce qu'on entend, aussi bien des hommes et des femmes politiques de l'époque que des journalistes politiques qui n'étaient pas mieux. Et c'est vrai qu'elle n'a cessé de tenir ce même discours, sans doute espérant un jour, peut-être plus tôt, voir quelqu'un, une femme lui succéder, ce qui se passe aujourd'hui. Et de ce point de vue, ça reste historique, même si c'est anormal du point de vue européen. En Europe, il y a des femmes un peu partout qui dirigent les gouvernements. Il n'y a qu'en France où c'est un événement.
Une exception française.
Preuve de notre anormalité sur ce plan.